Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
La Constitution pour l'Europe. Constitution pour une Union élargie, jeter les bases d'une fondation solide et commune aux pays membres, anciens et nouveaux. Tels sont les principaux objectifs du texte qui comprend une charte baptisée « Charte des droits fondamentaux ». Alors qu'est-ce que cette charte? À quoi servira-t-elle? Faut-il l'accepter en l'état? Autant de questions que je vous propose d'aborder dans « Éclairage » aujourd'hui. En compagnie de notre invité, M. Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne. Bonjour M. Béchler.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. En fait, vous signez une contribution sur ce sujet de la charte dans la revue Commentaire que dirige votre confrère de l'Académie, Jean-Claude Casanova. La revue Commentaire numéro 104 de l'hiver 2003-2004. Et le moins que l'on puisse dire, M. Béchler, est que votre contribution n'est pas vraiment tendre avec cette charte, vous allez nous dire pourquoi. Alors peut-être tout d'abord, cette charte des droits fondamentaux, de quoi s'agit-il précisément? Pouvez-vous nous en donner une définition, s'il vous plaît, objective, avant d'analyser le fond de votre pensée, le fond de la réflexion à la fois du citoyen et du philosophe d'ailleurs?
Bon, ne nous battons pas sur les mots, une charte ou un préambule est un texte solennel qui est rédigé pour être placé en tête d'une constitution et qui doit énoncer les principes fondateurs que cette constitution est chargée ensuite de développer avant que les citoyens et les responsables politiques mettent en œuvre les règles du jeu qui ont été ainsi définies. Alors le point, ce n'est pas indispensable, si vous voulez, un préambule, mais depuis la Constitution américaine, l'habitude en a été prise. Il me paraît essentiel que cette charte ou ce préambule soit d'une part le plus court possible et se concentre par conséquent sur l'essentiel, et d'autre part et surtout n'introduise aucun thème qui soit susceptible de donner lieu à des controverses entre citoyens décidés à vivre ensemble en respectant les mêmes règles du jeu. Autrement dit, il ne faut pas confondre principe et proposition politique, parce qu'il est clair que si un préambule ou une charte contient des clauses qui sont susceptibles d'être contestées, je ne dis pas par des adversaires ou des ennemis de la Constitution, mais
sur
au
le
contraire
fond,
des amis, et qui, de manière parfaitement légitime, peuvent diverger d'opinion, ou bien elle est nulle et non avenue, ou bien on est engagé dans des difficultés juridiques constitutionnelles graves.
Alors, à la base de votre réflexion, M. Béchler, une phrase, je la cite, « La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. » Et puis une question derrière, ce principe doit-il être inclus dans la Constitution pour l'Europe? C'est un petit peu le fondement de votre réflexion.
Oui, enfin, il n'y a pas que la dignité, si vous voulez. Bon, il est clair que personne ne s'opposera à un énoncé ainsi libellé, au sens où j'imagine difficilement quelqu'un qui militerait en faveur de l'indignité de la personne humaine, ou plus exactement des exactions commises à l'égard de cette indignité. Mais trouver dans un préambule un énoncé aussi général et aussi vague que celui que vous venez de rappeler inquiète le citoyen qui entre en contact avec cette charte et qui s'attend à y trouver, je le répète, des principes fondateurs et qui commence par tomber sur une banalité, sur un lieu commun. Et il se demande, dans cette charte très longue, alors qu'elle devrait être très courte, quelques lignes si vous voulez, n'y a-t-il pas ou bien des projets politiques ou des programmes politiques qui ont été glissés subrepticement dans ce préambule afin de lier les acteurs qui seront chargés de la mettre en œuvre, c'est une possibilité, nous en verrons j'espère, ou je le suppose, des exemples, ou bien alors c'est un catalogue de banalités, de lieux communs tirés de l'air du temps, tel qu'il s'est mis en place et densifié, si j'ose dire, depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale en Europe en particulier.
C'est ce que vous appelez d'ailleurs l'idéologie vague et molle qui domine en Europe depuis 1945. Nous y reviendrons. Alors, deux points de vue, celui du citoyen et celui du philosophe. procédons par ordre si vous le voulez bien, le point de vue du citoyen. Vous regrettez en fait de ne pas avoir été consulté avant l'adoption du texte, avant l'adoption de
la charte.
Bon,
il est clair que ce n'est pas moi en tant qu'individu.
Mais dans l'absolu.
C'est le citoyen ou les citoyens qui, de fait, n'ont été à aucun moment consultés. Alors vous me direz, mais si, en principe, il y aura des référendums ou des votes dans les assemblées des différents pays, et à cet égard, les délégués ou les représentants, mes délégués ou mes représentants, se prononceront. Bon, je connais toutes les subtilités de la délégation en régime démocratique, ou du moins dans des polities nombreuses, mais aucun de ces personnages qui sera chargé de se prononcer en mon nom n'ont été élus par moi pour ce faire.
C'est-à-dire 15 représentants des chefs d'État et de gouvernement, 16 représentants du Parlement européen, un représentant de la Commission, et donc la paradoxe, le principe de démocratie n'est pas respecté.
Absolument pas. Absolument pas. Aucun de ces membres de cette commission n'a été choisi par les citoyens, selon une procédure quelconque, pour, en mon nom, se charger de rédiger cette charte.
Donc c'est comment une charge en quelque sorte contre la technocratie, non ? Tout simplement.
Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Enfin, c'est une décision politique à l'issue de la réunion de Nice qui, pour noyer de certaines difficultés, somme toute l'échec de cette conférence européenne de Nice, décidé de noyer un peu le poisson désignant une commission chargée se prononcer sur les valeurs communes européennes, ce qui ne veut somme toute rien dire. Valeurs communes, je ne sais pas très bien ce que le mot valeur veut dire. Nous avons besoin, je le répète, de principes fondateurs et qui ne sauraient être que de nature démocratique, c'est-à-dire qui pose au préalable le principe de base de toute démocratie, à savoir que ce sont les citoyens, non pas encore, mais en tant qu'individus réunis en société politique, qui sont la source de tout pouvoir, de toute délégation et de toute décision. Sans doute par le truchement de délégués, parce que ça ne peut pas être autrement. Mais dans ce cas-là particulier, on ne nous a pas demandé d'élire une convention chargée de rédiger, enfin une convention au sens constitutionnel du terme, chargée de doter les Européens d'une constitution.
Alors,
et encore moins d'une charte.
Deux points principaux. Faut-il ou non réunir une convention pour fonder les États-Unis d'Europe et les doter d'institutions, et puis qui déléguer à la Convention ? Au premier point, je pense que le citoyen aurait peut-être répondu oui, et l'historien aurait émis des doutes.
Ce qui me concerne, moi, se pose un problème proprement politique qui porte sur la finalité de la construction européenne. Nous savons, et nous savons de mieux en mieux et de plus en plus clairement, qu'il y a deux écoles de pensée. Les uns voient dans la construction européenne une alliance sans doute étroite entre des sociétés politiques qui jusque-là avaient eu de très nombreuses occasions de se faire la guerre, les choses ayant changé, eh bien ma foi, ça n'est plus à l'ordre du jour et il vaut mieux s'efforcer de régler pacifiquement les conflits et les contestations qui peuvent naître entre nous Européens. Autrement dit, pour prendre le langage ou le vocabulaire d'Aristote, une alliance, une symmachie étroite entre politiques souveraines, d'un côté. Et de l'autre, vous avez ceux qui sont partisans de la fondation d'une politique européenne en tant que telle. À partir de quoi, bien entendu, on peut diverger sur l'organisation, la structure, les institutions, et ainsi de suite. Mais au départ, il y a ici une divergence fondamentale à l'occasion de laquelle il est impossible de trouver le moindre compromis. Alors, jusqu'ici et depuis 50 ans, il est clair que les moteurs, si j'ose dire, de la construction européenne étaient des fédéralistes déclarés ou non déclarés, c'est-à-dire qui avaient en tête comme objectif final la fondation de cette société politique proprement européenne qui serait un acteur sur la scène planétaire. Mais vous avez, et ils sont peut-être majoritaires, je n'en sais rien, en Europe, des gens qui n'en veulent pas. Et l'idée de cette convention, mais il ne faut pas confondre la charte et la convention, je me suis occupé de la charte, l'idée des initiateurs de cette convention, était, je crois, soit de faire en sorte que ces décisions entérinent définitivement qu'il n'y aurait jamais d'États-Unis d'Europe, ou du moins jamais, enfin, pour les décennies à venir, ou au contraire, de glisser subrepticement, si vous voulez, non pas la définition d'États-Unis d'Europe, mais des clauses, si vous voulez, qui conduiraient presque irrésistiblement vers des progrès dans le sens d'une intégration politique. Or, je crois qu'on ne peut pas tricher ni avec les concepts, ni avec les faits, ni avec les citoyens, et que le moment est venu de débattre clairement de la conception que l'on a de la finalité de la construction européenne. Aristote avait raison, on ne peut pas imperceptiblement et sans s'en rendre compte passer d'une cimachie, d'une alliance, à une police, à une cité. Il faut un saut, une rupture, et nous en sommes là.
Alors, la participation active des citoyens demande de la pédagogie de la part des initiateurs du projet. Que peut apporter, par exemple, Jean Béchler, le philosophe aux citoyens dans la compréhension, justement, de cette initiative de la Charte des droits fondamentaux ?
Ah, je crois que la tâche du philosophe, ça a toujours été sa tâche dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, est d'essayer de préciser de quoi l'on parle. Autrement dit, quel est le sens des mots et quelles sont les réalités que les mots sont censés désigner. Parce que je suis, enfin, si vous voulez, en tant que philosophe du camp des réalistes conceptuels, si vous voulez, qui considèrent que nous ne pensons pas seulement dans un univers langagier autoréférentiel, mais qu'il y a des réalités. Enfin, j'en ai énoncé une tout à l'heure, la différence entre une alliance même très étroite et une politique que les mots, ma foi, on peut discuter, mais une fois qu'ils ont été choisis, doivent désigner des choses précises. Autrement dit, le rôle du philosophe est un rôle de clarificateur, du moins dans ce cadre-là, et clarificateur des principes fondateurs.
Alors c'est un rôle technique quelque part, non ? Parce que répondre à la question de quel genre se réclame-t-il ce texte ? Ce genre est-il légitime ? Quel est son contenu ? Son contenu est-il légitime ? En fonction de quels critères le texte est-il légitime ? Tout ça, c'est quand même relativement technique, c'est pas philosophique.
C'est pas une insulte, enfin, que le mot technique, pourquoi un philosophe peut-être n'aurait pas... Non, mais technique, là aussi, bon, nous n'allons pas nous lancer dans une discussion épistémologique. Bon, tout de même, technique, enfin bon, je crois que le philosophe n'a pas à se prononcer sur la mise en œuvre légale, constitutionnelle, d'une décision, qu'elle aille dans le sens de l'alliance étroite ou dans le sens de la fondation des États-Unis. Je dirais que le philosophe n'a pas peut-être à se prononcer dans un sens ni dans l'autre, parce qu'on peut plaider dans les deux directions. Par contre, son rôle est de dire qu'on ne peut pas tricher, enfin c'est l'un ou l'autre, et il n'y a pas de position intermédiaire. Et ce qui est plus grave, il n'y a pas de possibilité de passer, je dirais, subrepticement de l'un à l'autre dans le dos des citoyens, si vous voulez. Il arrive un moment où ils doivent se prononcer dans un sens ou dans l'autre.
La charte des droits fondamentaux, donc pour la Constitution, pour l'Europe, c'est le sujet dont nous parlons dans Éclairage aujourd'hui. L'invité de notre émission, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur Jean Béchler, qui publie justement dans la revue Commentaires numéro 104 de l'hiver 2003-2004 un long article, un long commentaire sur cette charte des droits fondamentaux. Nous marquons une pause, monsieur Béchler, nous nous retrouvons dans un très très court instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez. C'est Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, qui est notre invité aujourd'hui, Jean Béchler, qui signe dans la revue Commentaires une communication, je dirais un commentaire, purement et simplement, sur la charte des droits fondamentaux contenue dans la Constitution pour l'Europe. Alors, monsieur Béchler, regardons d'un petit peu plus près le texte. Selon vous, le choix même du mot charte pourrait être révélateur. Tout est dans la définition. Selon le Trésor de la langue française, il s'agit, dites-vous, d'un acte authentique consignant des droits, des privilèges, généralement accordés par un suzerain, ensemble des lois constitutionnelles octroyées par un suzerain. Les termes vous choquent du point de vue de la démocratie.
Oui, parce que le mot « charte » a une histoire et il est déraisonnable d'utiliser les mots sans y prendre garde. La charte rappelle Louis XVIII et expressément et délibérément, le mot utilisé était « nous octroyons une charte ». Autrement dit, la source ou le principe de tout pouvoir politique est extérieur à ceux qui sont appelé à obéir aux énoncés de l'ordre constitutionnel, ce qui est une contradiction directe et complète par rapport au principe démocratique qui pose que la source de tout pouvoir, de toute décision, et non pas dans le peuple, je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on pense immédiatement à un collectif abstrait, si vous voulez, ce sont the people, les gens. Les gens, et dans nos sociétés individuées, les gens, ce sont des individus. On peut concevoir des démocraties et en repérer des cas historiques ou ethnographiques où les acteurs sont des collectifs. Par exemple, des lignages ou des lignées ou des maisons, domus, enfin, selon l'expression romaine. Dans nos sociétés modernes, il s'agit d'individus. Et donc, présenter un texte et lui donner comme titre quelque chose qui suggère un octroi tombé d'en haut, si vous voulez, et ensuite imposé peut-être en consultant le peuple et encore les gens, est contraire tout simplement au principe fondateur de toute démocratie.
C'est
donc
ça,
délabore cette charte est viciée, si vous voulez.
La boucle est bouclée en quelque sorte. Parce que l'on n'a pas été consulté, la charte nous a été octroyée, accordée.
Voilà. Et je dirais que même si elle était parfaite, je récuserais la procédure qui a été adoptée pour produire ce texte.
Donc il y a paradoxe évident dans la sémantique.
Oui, et ce n'est pas quelconque. Je pense que nous sommes encore dans ces habitudes européennes où pendant plusieurs décennies, pour des raisons qui étaient probablement inévitables, la construction européenne s'est faite un peu dans le dos des citoyens. Je dirais que c'était probablement inévitable parce que le projet était tellement extraordinaire, tellement inédit dans l'histoire de l'humanité qu'il me Il eût été probablement impossible de partir de la conviction, si vous voulez, des citoyens de base qui, émus par un projet grandiose, auraient mis en mouvement des acteurs, des délégués pour conduire à la solution à laquelle ils aspiraient. Bon, cette procédure était tout à fait impossible. Nous ne sommes pas dans le cadre de la naissance des États-Unis où il y a eu une révolution, enfin d'une colonie contre une métropole. Le contexte est radicalement différent.
Thank you. Alors, une charte démocratique se doit de présenter évidemment des principes exprimant la démocratie. Peut-on réellement, Jean Béchler, atteindre le consensus dans ces principes? Par définition, la démocratie est multiple dans ses propositions, alors comment contenter tout le monde?
Non, je crois qu'une démocratie, d'abord, c'est un régime politique, je me répète, fondé sur un principe ultime, à savoir que le pouvoir est enraciné dans ceux qui obéissent et enraciné dans ceux pris individuellement. Dans les obéissants pris individuellement et qui considèrent qu'ils ont intérêt à obéir à des gens qu'ils délèguent pour prendre des décisions, ils y ont intérêt parce qu'ils les jugent compétents pour résoudre et gérer des affaires communes. C'est aussi simple, j'allais dire, et aussi bête que cela. Alors, on peut refuser ce principe fondateur. Autrement dit, il est possible, permis peut-être, légitime, j'en doute, de raccrocher à une fondation différente du pouvoir, de considérer que, par exemple, il est enraciné en Dieu, dans le Dharma ou dans le ciel, à la mode chinoise, qui choisissent ou se choisissent ici-bas un vicaire, une dynastie, et qu'ils chargent de gérer le bien commun au bénéfice de leurs sujets. J'appelle ce type de régime une hiérocratie. Alors, dans le contexte moderne, ça me paraît très difficile à soutenir, mais enfin, pourquoi pas? L'expérience prouve que, les gens placés devant l'alternative se résolvent à une très large majorité pour le principe démocratique, parce que je le crois tout simplement naturel. Autrement dit, il s'agit de tomber d'accord sur la définition du régime, sur les principes, sur les parce que dans valeur, il y a valoriser, à partir du moment où il y a valoriser, les facteurs qui pèsent sur les valorisations sont très variables et donc des divergences apparaissent. Autrement dit, il faut s'entendre, je vais prendre une image, enfin, mais qui est assez parlante, s'entendre sur les règles de la belote ou du bridge. Tous les joueurs qui ont envie de jouer à la belote et au bridge tombent d'accord sur les règles. Ensuite, chacun joue les parties en essayant de pousser son avantage jusqu'au point où il gagne. Autrement dit, une fois qu'on s'est entendu sur les règles du jeu, il est parfaitement possible de diverger. Si nous avons le temps, nous pourrons peut-être repérer certains problèmes sur lesquels il est parfaitement légitime de diverger dans le cadre de règles du jeu communes. Je prendrai un exemple, si vous voulez. Je crois que fait partie des principes fondamentaux la règle qu'il est scandaleux que des citoyens soient réduits à une misère déshonorante ou qui compromettent leur survie. Et que si des citoyens se retrouvent dans cette situation, pour quelque raison que ce soit, il est juste que les autres leur viennent en aide. Si vous voulez, il y a un principe d'assurance réciproque entre citoyens. Quel est le montant de la compensation ou des aides qui doivent être assurées à ceux qui en ont besoin? Il est impossible de déduire ce montant des principes fondateurs. Donc on peut être d'accord sur cette idée d'assurance réciproque et diverger complètement sur les montants, sur la manière de le gérer, sur et ainsi de suite. Et donc vous aurez forcément au moins deux familles politiques, une qui est plutôt en faveur d'une marche plus délibérée vers une égalité plus grande, et d'autres au contraire qui considèrent que du moment que personne ne meurt de faim, ça devrait suffire.
L'égalité, c'est un droit ?
Égalité ne veut rien dire. Égalité en quoi ? Égalité, ça fait partie de ces catégories, si vous voulez, qui n'ont de sens qu'à partir du moment où on explicite à quoi elles s'appliquent. Donc, égalité en droit politique, oui, puisque cela revient tout simplement à énoncer le principe fondateur qu'un citoyen égale un citoyen. J'aurais préféré que dans la Déclaration des droits de l'homme, mais celle d'il y a plus de deux siècles, on ne parle à point d'égalité devant la loi, mais d'identité. Les citoyens sont identiques en tant que citoyens. Et donc, il n'est interdit, si vous voulez, au contraire au principe, d'introduire des distinctions qui brise cette identité en tant que citoyen. C'est ce que Tocqueville avait exprimé sous l'expression d'égalité des conditions. Non, c'est l'identité de la substance civique, si vous voulez, de tous ceux qui composent le corps politique. Ils peuvent être par ailleurs riches, pauvres, grands, petits, beaux, laids, vieux, jeunes, hommes, femmes, et ainsi de suite. Nous ne sommes évidemment pas égaux, mais nous sommes identiques en tant que citoyens.
À vos yeux, Jean Béchelaire, la notion de droit à n'est pas démocratique.
Si vous voulez, bon, le français, par chance, ici, est extrêmement précis. Vous prenez le mot « droit », qui est un mot noble, qui nous vient des Grecs et des Latins et qu'il faut absolument conserver, mais vous pouvez le construire de différentes manières. Vous pouvez construire « droit de » avec un verbe. Alors, droit de voter, droit de fonder une entreprise, droit d'exprimer une opinion, droit de fonder une association, droit de. Ce sont tout simplement les libertés qui expriment, si vous voulez, la nature ou l'essence du citoyen. Un citoyen de fondation est titulaire, si vous voulez, d'un certain nombre de libertés qui sont rien d'autre que des déterminations de son statut de citoyen. Et donc, je préfère parler en termes de liberté, et de liberté au pluriel, si vous voulez, les libertés du citoyen. Il y a un glissement subtil, mais corrupteur, et peut-être pervers, de droit de à droit à.
Expliquez-nous un petit peu.
Eh ben, droit à avec un substantif. Donc, par exemple, droit à, prenant à la vie, c'est une merveilleuse clause de cette charte. Cela veut dire que, non seulement on n'a pas le droit de vous enlever votre vie, ce qui est tout de même la moindre des choses, mais si on prend les choses à la lettre, on peut se retourner contre quelqu'un si on vient à mourir, puisque c'est un droit à quelque chose, que l'on doit, vous avez donc droit à quelque chose, transfère forcément un devoir de procurer ce droit à quelqu'un d'autre. Autrement dit, un droit a toujours un revers qui est un droit sûr.
Ça entame la liberté de l'autre.
C'est ça. À partir du moment où quelqu'un se voit infliger sur lui-même un droit défini par quelqu'un d'autre sans qu'il ait forcément eu voix au chapitre, eh bien, vous avez une limitation de sa liberté. Le vocabulaire exprime toute une idéologie, si vous voulez, que je crois foncièrement antidémocratique et pas seulement antilibérale. Enfin, des citoyens responsables, si vous voulez, partisans d'une société libre, doivent souscrire à un contrat d'assurance réciproque entre tous les citoyens et donc doivent se préoccuper des déréliquions les plus choquantes, les plus scandaleuses, les plus imméritées, même celles où la victime est plus ou moins responsable. Je crois que nous sommes embarqués, si vous voulez, ensemble, et il faut en tenir compte. Par contre, distribuer selon le principe de majorité changeante des droits à, qui sont mécaniquement des droits sur d'autres, est une infraction grave au principe démocratique.
Mais loin de moi l'idée de vous offenser, de vouloir vous offenser, Monsieur Béchelaire, mais est-ce que le philosophe ne va pas chercher finalement trop loin, là ?
Non, je crois que les gens, bien entendu...
Ou est-ce que le législateur, lui, ne va pas chercher assez loin, justement ?
Je crois beaucoup au bon sens des citoyens et des gens. Je crois que Descartes avait raison lorsqu'il disait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il entendait par là que les êtres humains sont équipés pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux, à condition qu'on le leur explique, et qu'ils ont une sorte d'instinct pour se raccrocher au vrai. Donc je crois que le rôle des universitaires, des philosophes, disons de ceux qui ont étudié un peu ces questions, des juristes aussi qui ont un peu étudié ces questions, est d'expliquer clairement quels sont les enjeux de ces débats et de ces rédactions de textes qui peuvent paraître abscons, si vous voulez, mais qui touchent à des réalités extrêmement sensibles. Autrement dit, ce ne sont pas des subtilités. Vous pouvez faire comprendre à tout le monde, me semble-t-il, qu'il y a une différence entre le droit de faire telle ou telle chose, si vous voulez, et un droit à une part de la propriété privée de quelqu'un d'autre. C'est ça, un droit sûr, enfin, quelqu'un d'autre.
Mais est-ce que ça ne prendrait pas trop de temps d'entamer le débat avec les citoyens, justement ?
Ma foi, vous savez, l'espèce humaine, ça m'étonne toujours, existe depuis 100 000 ans, nous disent les spécialistes, peut-être 200 000, nous ne nous battrons pas. D'autres nous disent que notre Terre, plus exactement notre système solaire, a encore 5 milliards d'années devant lui. Autrement dit, nous entamons à peine l'aventure humaine et nul ne sait ce que l'avenir lui réserve. On n'en a pas la plus petite idée parce que l'imagination sociologique est nulle. Et donc, alors je ne dis pas que toutes les questions peuvent attendre 5 milliards d'années, mais il y a des questions qui demandent à être mûries, à être débattues, et la construction européenne est une entreprise, à mon sens, de longue haleine, où l'unité de temps n'est évidemment pas le mois ni l'année, à peine la décennie, c'est le siècle.
Alors nous allons voir justement quelles peuvent être les bases de ce débat. Pour l'instant, nous marquons une pause. Je rappelle que l'émission Éclairage sur Canal Académie reçoit aujourd'hui M. Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, et nous parlons de la Charte des droits fondamentaux pour la Constitution pour l'Europe. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie. La charte des droits fondamentaux dans la Constitution pour l'Europe, c'est le sujet dont nous parlons dans Éclairage aujourd'hui. Je vous rappelle notre invité, M. Jean Béchler, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Béchler, qui signe un commentaire justement dans la revue Commentaire que dirige d'ailleurs M. Béchler, votre confrère de l'Académie, Jean-Claude Casanova. C'est la revue Commentaire numéro 104 de l'hiver 2003-2004. Bien sûr, j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à se référer à ce texte. Alors, la charte n'est ni un préambule ni un programme, mais un catalogue des valeurs communes, des principes communs, je dirais, des peuples de l'Europe, dites-vous.
Alors, vous posez... C'est pas moi qui le dis, ce sont les commanditaires.
Oui. Enfin, vous le reprenez, disons, pour aller un petit peu plus loin dans votre propos. Quels seront les principes de cohérence et de cohésion ? À quoi se référer concrètement ? À la nation ? La nation européenne n'existe pas. À la civilisation européenne ? Plus précisément, quelles doivent être les bases ?
C'est un grand débat et qui excède, me semble-t-il, le cadre de ce commentaire sur la charte. Toute société humaine a besoin d'un ciment, donc de principes de cohésion et de cohérence. Alors, lorsqu'on examine les différentes solutions qui ont été inventées par les humains à travers les siècles et les millénaires, on en repère une dizaine, si vous voulez, la bande, la tribu, la cité, la féodalité, le régime des castes, par exemple, et la nation. Alors, la nation est une élaboration proprement européenne qui a pris plusieurs siècles et qui est une élaboration très complexe où, malgré tout, les ingrédients essentiels sont les anciens régimes, donc des régimes politiques d'un type particulier, et surtout le fait que l'Europe n'a jamais été unie en une polity unique, en un empire. Et par conséquent, les Européens ont eu besoin, pour simplifier, je simplifie de manière scandaleuse, de se définir les uns contre les autres. Vous savez, les Français sont devenus Français essentiellement contre les Anglais et réciproquement tout au long de la guerre de Cent Ans. Enfin, Jeanne d'Arc est une expression symptomatique de l'émergence de la nation française. Et avec le passage, si vous voulez, à des régimes démocratiques où corps des citoyens était élargi à l'ensemble des membres de la société, eh bien, le principe national, si vous voulez, est devenu à la fois le ciment et le cri de ralliement, si vous voulez, des différentes politiques européennes. Alors, supposons que les États-Unis d'Europe soient fondés. Quel serait le principe ou les principes de cohérence et de cohésion de cette société politique ? Ça ne peut pas être la nation. parce qu'à supposer qu'il soit désirable que les Européens se définissent contre les Chinois, contre les Indiens et contre les Américains, ce que je ne souhaite pas, de toute façon, il faudrait plusieurs siècles pour réussir à élaborer cet élixir extrêmement subtil qu'est une nation. Donc je crois que la solution n'est pas dans cette direction. À vrai dire, il est inutile de chercher une solution, elle naîtra spontanément. Et le plus probable, vous avez deux possibilités. L'une qui me paraît moins probable, c'est la solution américaine, qui consiste à définir la nation non pas comme une substance dont participe chacun, du moins idéalement chacun des citoyens, mais comme un ensemble de règles du jeu que chacun des citoyens s'engage à respecter, et respecte si vous voulez, parce que ça fait partie de sa définition même comme être humain faisant partie d'une société, et dans ce cadre-là, chacun a la possibilité d'être lui-même, donc d'être américain et italien, d'être américain et mexicain, ou hondurien, ou polonais. Alors bien entendu, à travers le temps, il en résulte des évolutions, mais malgré tout, le multiculturalisme demeure extrêmement prégnant. L'autre solution, la plus évidente, et c'est manifestement celle vers laquelle on s'orienterait, c'est la solution suisse, c'est-à-dire une fédération dont les organes communs à l'ensemble des citoyens sont chargés de gérer les problèmes communs et, à des niveaux inférieurs d'intégration, au niveau national, en l'occurrence, en Suisse, c'est au niveau des cantons, si vous voulez, ben chacun continue à vivre et à se réclamer de valeurs, si vous tenez à ce mot, qu'il a hérité des générations antérieures. Et puis, dans tout le monde, laissez-moi terminer, avec le temps, au bout de plusieurs décennies ou de plusieurs siècles, eh bien, le niveau proprement européen, si vous voulez, aura eu le temps de se peupler, si j'ose dire, ou de se densifier d'éléments culturels proprement européens qui sont déjà là, en tout sens, une civilisation qui est en place depuis 5 millénaires. Enfin, bon.
Puis-je résumer, M. Bechler, en disant qu'il suffit de définir le citoyen comme libre, car la liberté, si elle est respectée, évidemment, implique des responsabilités de l'un vis-à-vis de l'autre.
Oui, mais cela ne permet pas de circonscrire le club dont ces citoyens font partie, et ce que j'appelle la politie ou policy, je pense qu'il faut
prononcer. Donc c'est un encadrement.
C'est, si vous voulez, l'ensemble, c'est l'espace social à l'intérieur duquel ceux qui en font partie tombent d'accord pour gérer leurs problèmes et leurs conflits sans avoir jamais à recourir à la violence.
C'est le paradis ?
Non.
C'est l'idéal, en tout cas.
Dans toutes les sociétés politiques, c'est à peu près réalisé. Enfin, tout même, on ne se bat pas de manière quotidienne en France en recourant à la violence. On est d'accord sur rien, mais ça c'est normal. Nous sommes une espèce querelleuse, incapable de s'entendre. Si vous voulez, les conflits humains sont naturels. Et essayer de résoudre les conflits humains en postulant qu'on puisse les éteindre, est une folie idéologique qui conduit à des catastrophes. Il faut partir du postulat et de la réalité que nous sommes, je le répète, une espèce querelleuse qui est capable de se quereller à propos de n'importe quoi.
Nous sommes faillibles.
Malgré cela, il est possible de définir, je le répète, des règles du jeu qui permettent, à l'intérieur d'un club réunissant une certaine population, eh bien, de ne pas s'entendre sans s'entretuer. Mais au-delà de cet espace de pacification tendancielle, les conflits surgissent également, mais comme il n'y a pas d'institution permettant de les régler de manière pacifique, la guerre menace. Autrement dit, l'espèce humaine, depuis 10 000 ans à peu près, est placée et distribuée, si vous voulez, en espace de pacification tendancielle et espace de guerre virtuelle. Et la seule solution serait une politique planétaire, ce vers quoi nous tendons spontanément, je crois. Je crois que l'intuition de Kant était exacte. Nous y allons par des conflits et par des guerres, et depuis 10 000 ans, c'est effectivement la ligne directrice suivie par l'histoire humaine, du moins je le plaiderai volontiers.
La mondialisation de l'économie en fait partie ?
Vous pouvez avoir mondialisation de l'économie, mondialisation des informations, là nous y sommes, si vous voulez, sans qu'il y ait mondialisation politique. L'Europe a été un espace économique, un espace culturel, un espace religieux pendant des siècles, tout en subissant la dispersion politique. Mais cette dispersion politique reposait sur des mécanismes d'équilibrage et de rééquilibrage, ponctués par des guerres, dont certaines ont fort mal tourné, mais qui permettaient, si vous voulez, entre les guerres, de vivre, somme toute, dans une Europe en paix, et à cette occasion, de permettre que tout circule, qui doit circuler, si vous voulez. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Europe est une ère culturelle, un des grands espaces de civilisation, avec la Chine, l'Inde, l'Asie antérieure.
Voilà, entre autres.
En somme, entre autres. Oh, pas tellement, il n'y en a pas beaucoup plus de grandes. Vous savez, à l'échelle de 5 millions de kilomètres carrés, plusieurs centaines de millions d'habitants et 5000 ans d'histoire derrière.
Éclairage reçoit M. Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, et nous parlons de la Charte des droits fondamentaux. Alors M. Béchler, revenons à cette Charte des droits fondamentaux. Je rappelle votre texte à lire dans la revue Commentaires de l'hiver 2003-2004 concernant justement cette Charte. Alors, à partir du moment où le club que vous évoquiez juste avant la pause, le club est formé, ensuite il faut éviter un piège, selon vous, dans la rédaction de la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire l'imposition de normes indéterminables qui empêchent toute stratégie efficace. Là, si vous me permettez, je citerai un exemple que vous prenez. Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré par les politiques de l'Union européenne. Selon vous, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire parce que quel est le niveau de protection satisfaisant? Élevé jusqu'où? À quel coût? avec quelles conséquences? Il est impossible de le déterminer à l'avance. Ou plus précisément, si l'on demandait à des experts, il en existe, si vous voulez, de se prononcer sur des mesures concrètes à prendre respectant ce principe général, vous auriez inévitablement N solutions proposées par des gens honnêtes, savants, compétents, mais qui sont obligés de prendre position sur un certain nombre d'indécidables. Si les prenons un exemple limite, si vous voulez, l'environnement. Vous avez deux positions extrêmes qui sont indéfendables. Celle où la nature serait dans l'état résultant de la disparition de l'espèce humaine. Je vois difficilement une politique qui se prononcerait en faveur de cette solution. Et à l'autre extrême, vous avez une solution également impossible où l'espèce humaine disparaîtrait du fait d'une pollution excessive. Donc il faut viser entre ces deux extrêmes. Même en s'éloignant beaucoup, beaucoup des pôles opposés, vous avez une gamme extraordinairement ouverte de situations qui combinent, si vous voulez, un état de dégradation de l'environnement, avec les avantages retirés de la dégradation de cet environnement, du fait de la production, de la consommation, des déchets qui en résultent, et ainsi de suite. Or, je ne vois pas la possibilité de déduire d'un principe « il faut que l'espèce humaine puisse survivre », quelles doivent être les mesures hic et nunc le 1er avril 2004. Vous aurez forcément des politiques. Et donc, nous retrouvons notre espèce querelleuse. Il faut prévoir un espace, et cet espace ne peut être que politique, où puissent se rencontrer tous ceux qui ont des positions à défendre et qui le font, si vous voulez, en toute bonne foi, pour éclairer les citoyens et leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, soit par des procédures politiques de vote, de délégation, soit par des procédures encore plus démocratiques de marché, parce que sur un marché, chacun, en achetant ou en refusant d'acheter, vote.
Alors tout le monde, en tout cas, se retrouve dans le développement durable, dans cet objectif.
Vous connaissez quelqu'un qui soit contre le développement durable ? Je n'ai rencontré personne.
Que vous inspire ce principe de développement durable ?
Je suis pour, si vous voulez, en tant que citoyen, mais j'attends l'on me dise quelles sont les propositions qui permettent de mettre en œuvre une politique qui aille dans le sens de la durabilité du développement. Je pourrais, si vous voulez, vous faire des propositions en ce sens-là, mais je le ferai en tant qu'acteur politique parmi d'autres acteurs politiques, et c'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de définir, je répète, les règles du jeu, le cadre à l'intérieur duquel même ceux qui ne sont pas d'accord entre eux peuvent continuer à vivre sans s'entretuer. C'est ça. C'est ça qui doit se trouver dans un préambule ou dans une charte d'une constitution. Comment vivre ensemble sans être d'accord et sans s'entretuer ? Ce qui n'est pas rien.
Pour repartir à zéro.
Non, mais l'humanité a toujours trouvé des solutions à ces questions, mais à l'intérieur d'un cadre politique défini. Au-delà, la guerre devient possible et nous en sommes toujours là puisqu'il n'y a pas de politique planétaire.
Jean Béchelaire, pensez-vous que si les citoyens avaient été consultés pour l'élaboration de cette charte, le fond en aurait été changé ?
Il est clair qu'il n'était pas question de consulter les citoyens au sens d'envoyer un questionnaire à chaque Européen et vous demander de cocher telle ou telle case. La seule solution, elle était impossible, c'était de réunir une convention, si vous voulez, de Cincinnati ou de Paris, où des gens délégués pour se faire par les citoyens européens auraient débattu de la Constitution et se seraient entendus sur un préambule exprimant d'une manière forte et de préférence belle les principes fondateurs du club qu'ils ont décidé de construire. Mais ce n'était pas possible parce qu'une bonne partie des Européens et des responsables européens n'en veulent pas. Nous ne sommes pas dans la situation où nous pourrions réunir une convention au sens propre du terme pour fonder, je le répète, une nouvelle politique européenne. Et donc, c'est une chimère au sens de c'est fait de pièces et de morceaux, les uns voulant ceci, les autres cela, d'où ce langage, je parle ici de la convention beaucoup plus que de la charte, où tout est vague, où rien n'est clairement énoncé. Et je dirais que les responsables, bien entendu, le savaient. Autrement dit, ils ont essayé de produire un texte qui satisfit tout le monde, c'est-à-dire personne. Parce qu'on ne peut pas, dans l'état actuel des choses, prendre une décision qui engage politiquement l'avenir de tous les Européens, dans le sens de la création d'une fédération. Alors pour ce qui est de la charte, le propos était différent, c'était de faire une sorte de catalogue des valeurs communes, étant présupposé que c'était le ciment avec lequel il était possible de faire tenir ensemble l'Europe. Aucune de ces propositions n'est particulièrement européenne. Des latino-américains peuvent en dire autant, des chinois se retomberaient facilement d'accord. Autrement dit, je le répète, ce sont des banalités tirées de l'ère du temps et de l'ère du temps du dernier demi-siècle. Bon, je prends compte, ça me paraît nul et non avenu et d'un intérêt extrêmement limité. Mais de toute façon, réunir, si vous voulez, des gens qui n'y connaissent rigoureusement rien pour dresser un catalogue des valeurs européennes, même si on avait pris des historiens, des sociologues et des philosophes, moi j'aurais refusé de faire partie de la commission, ils ne se seraient jamais entendus, ça n'est pas possible. Enfin, rien que la définition du mot valeur, enfin vous avez des combats homériques sur une définition de ce genre, en espérant qu'elle ne tournera pas à la violence.
Mais quand même, la traite des femmes, les droits sociaux, le travail des enfants, la protection de l'environnement, la peine de mort, le développement développement durable, tiens, on le retrouve. Le lecteur note l'absence de toute référence aux droits des animaux.
Oui.
Là, je vous lis, vous êtes quand même
ça viendra,
assez
ça viendra,
dur. Mais... Donc, c'est ça l'idéologie vague et molle de
Exactement,
45.
Exactement, mais sur lesquels bon, on peut tomber d'accord, à condition de ne pas y regarder de trop près. Il y a une clause, par exemple, refusant toute discrimination en toutes circonstances, je ne sais pas si ce sont les termes exacts, en fonction de la couleur, du sexe, et ainsi de suite. Et je prends un exemple fictif, mais enfin, qui se présente tous les jours. Un réalisateur veut tourner un film sur la traite des Africains au XVIIIe siècle et fait appel à des figurants. Se présentent des Blancs pour jouer le rôle des Africains conduits en esclavage en Amérique. Ils sont rejetés en tant que Blancs. C'est une discrimination horrible quant à la couleur, mais qui, dans une société, enfin, dans un préambule ou une charte qui eût été rédigée de manière conforme au bon sens, et je dirais au principe de la démocratie, il aurait fallu dire tout citoyen peut postuler à tout emploi à condition de présenter les qualifications et les compétences requises pour cet emploi. Pour jouer le rôle d'un esclave noir, on ne peut pas se présenter en tant que blanc. Mmh. Il faut être noir. C'est pas de la discrimination.
C'est une logique implacable.
Voilà.
Jean Béchelaire, rassurez-nous quand même, tout n'est pas à jeter dans cette charte des droits fondamentaux.
Non, mais tout est rien, mais ça n'a rien à voir dans le préambule d'une constitution, tout simplement. C'est hors sujet. Beaucoup de ces clauses, ou bien ne veulent pas dire grand-chose. Bon, nous sommes pour le développement durable. D'accord, bon, personne n'est contre. Bon, c'est pas la peine de le mettre. Si on essaye d'aller plus loin, que faut-il faire très précisément pour atteindre cet objectif? Ça devient une politique au sens d'un ensemble de stratégies mises en œuvre au service d'un objectif défini.
C'est ce que font les entreprises notamment.
Oui, mais les entreprises.
En luttant contre la pollution.
Les entreprises. Oui, mais non, je suis d'accord. Mais c'est ainsi que,
chacun
que les choses se fera. Mais, introduire dans un texte qui engage pour l'avenir tout le monde, introduire des choix politique susceptible d'être contestée est une erreur grave. Enfin, non, je crois que c'est grave. Là, c'est pas une question d'humeur, si vous voulez. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire parce que c'est imposé aux citoyens et aux générations futures des choix politiques qu'ils sont susceptibles de vouloir rejeter pour des raisons quelconques, mais tout à fait légitimes dans le cadre, je le répète, de règles du jeu définies. Donc, ce texte est un mélange, si vous voulez, de lieux communs éculés, de propositions asexuées, au sens où elles sont admissibles par tout le monde et par conséquent par n'importe qui. C'est comme si on mettait comme condition à l'entrée dans le club européen le fait de supprimer la peine de mort, de conduire des élections selon des règles reconnues par tout le monde et appliquées d'une manière correcte et un certain nombre d'autres principes. Bon, la Corée du Sud respecte ces principes, donc il faut la faire entrer en Europe. La Nouvelle-Zélande encore bien mieux, donc, bon, faisant la rentrée en Europe, tout ça est absurde, enfin, tout simplement. Il faut savoir avec qui on a envie de vivre, tout simplement. Et par contre, les principes de la démocratie, les principes fondateurs, ne sont pas européens, ils sont humains.
Et universels.
Donc, valables pour l'espèce en tant qu'espèce. Pour la société des anges, je l'ignore. Enfin, je n'y ai pas déjà été introduit.
Merci beaucoup, monsieur Jean Béchelaire, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne. Et je renvoie bien sûr à la lecture de ce papier que vous signez dans la revue Commentaire, la revue Commentaire numéro 104 de l'hiver 2003-2004, votre point de vue sur la charte des droits fondamentaux pour la Constitution pour l'Europe. Merci, monsieur Béchelaire, à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie.